pour investir, la boîte à outils.
La boîte à outils ce matin avec Alexandre Boutin, directeur général adjoint de la financière de Lorient et directeur de l'ingénierie patrimoniale. Bonjour Alexandre Boutin.
Bonjour Étienne.
Bienvenue en plateau ce matin dans Tout pour investir afin d'aborder, comme nous l'avions précédemment évoqué, la taxe sur les holdings patrimoniales. Alors c'est une taxe nouvelle qui a vu le jour lors de dernier projet de finances. C'était fin 2025. Et puis là, on est vraiment dans une phase de transition puisqu'elle sera applicable à partir de l'année prochaine. C'est quoi aujourd'hui l'objectif visé par cette taxe sur les holdings patrimoniales?
Donc c'est une taxe effectivement qui a été adoptée dans le cadre de la nouvelle loi de finances, qui a subi quelques évolutions puisque à l'origine, on est sur une taxe où le taux est beaucoup plus faible et avec une assiette large, et là on est sur un taux élevé avec une assiette réduite, on va en parler. Et la philosophie, c'est quoi? C'est de se dire que finalement, certaines holdings bénéficient de capacités d'investissement, de trésorerie, qui ont été peu fiscalisées dans leur acquisition et qui sont employées à acheter des biens qui ne sont pas nécessairement des biens qui ont une vocation économique au sens déploiement d'une activité commerciale, artisanale, libérale dans l'économie pour générer du PIB. C'est ça l'idée.
Donc typiquement, c'est des yachts, des jets, des voitures de sport, des bijoux, enfin bref, tout ce qui n'a pas d'intérêt à proprement parler pour la société.
Oui, l'idée c'est ça, c'est de se dire que finalement, grâce à des perceptions de revenus peu ou pas fiscalisées, alors on a des dispositifs qui existent en France pour les holdings qui permettent de remonter des dividendes en quasi-franchise d'imposition ou de vendre des propres sociétés, ce qu'on appelle des cessions de participation avec peu d'imposition également. Et une fois que ces flux de capitaux sont récupérés par les structures holdings, eh bien, elles sont utilisées, mais pas toujours dans des vertus économiques. Et parfois, les capitaux sont utilisés pour acheter ce que vous avez cité comme nature de bien. Donc le texte est très précis, hein. Il vise une taxe à hauteur de 20%, mais sur une liste de biens qui est précisément codifiée à l'article 235-C du Code général des impôts. Et l'idée, c'est de se dire, tant que ces biens ne sont pas affectés à une activité économique au sens propre du terme, eh bien, ils rentrent dans cette assiette taxable.
Alors, il y a plusieurs critères pour être éligible à cette taxe sur les holdings patrimoniales. Déjà, il faut une valeur vénale sur les actifs de 5 millions d'euros, au moins 5 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on met dans ces 5 millions d'euros? Comment on les valorise?
Alors, ce premier critère, c'est la valeur de la société. Et c'est la valeur dite brute de la société. Une fois que cette société holding, qui détient un certain nombre d'actifs, passe le cap de cette valorisation de 5 millions d'euros, eh bien, le premier critère, j'ai envie de dire, est rempli. Et on a la capacité à faire rentrer le premier critère pour la taxation des fameux 20%. Après, on a une série de critères qui suivent. Il faut que cette société holding elle ait des revenus dits passifs. Donc les revenus passifs, c'est à contrario des revenus d'activité libérale, artisanale, agricole, commerciale, industrielle. C'est des revenus qui sont issus du patrimoine de cette société holding. C'est du dividende, c'est du coupon. Sont aussi cités les droits d'auteur, par exemple. Voilà, c'est tout ce qui n'est pas lié à une activité au sens propre du terme. Un troisième critère, c'est celui des détentions capitalistiques. Ça veut dire que le dirigeant ou son groupe familial détiennent au moins 50% du patrimoine de cette société holding pour que finalement la société holding commence à être taxable.
Une fois qu'on a mis tous ces critères, est-ce que vous arrivez ou est-ce que les services de l'État ont réussi à faire un petit peu le profil type des Français qui pourraient être concernés par cette taxe et à la fin ça pourrait concerner combien de personnes ?
Dans le projet initial, parce qu'il a évolué, le projet initial, on avait des recettes budgétaires évaluées à 900 millions, 1 milliard. C'était un peu le projet initial d'aller récupérer ces dotations pour financer l'État. Là, on est en trajectoire, parce qu'il y a des modifications des sociétés éligibles, puisque, comme vous l'avez dit, comme c'est applicable, en tout cas, clôture de bilan 31-12-2026, il y a encore des conseils qui peuvent acter des modifications pour sortir les sociétés éligibles. Et à date, on a des trajectoires, des évaluations qui pourraient définir une centaine de foyers fiscaux pour environ 100 millions d'euros de recettes, ce qui reste malgré tout pas tout à fait au niveau des objectifs initiaux, mais on reste dans le symbole quand même. Cette fameuse taxation reste finalement dans le symbole de taxer des biens qui ne sont pas affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
C'est du symbole, d'autant plus que là, 2026, c'est une année de transition, dans le sens où cette taxe n'est pas encore entrée en vigueur. Il faudra faire sa déclaration l'année prochaine. Donc les personnes aujourd'hui qui sont concernées par les critères que vous avez évoqués précédemment, ou en plus de cela, le temps un petit peu de se retourner s'ils souhaitent contourner cette nouvelle taxe.
Oui, tout à fait, on a tous les conseils qui doivent être à la manœuvre pour éviter de rentrer dans le champ d'application. Donc, comment faire ? C'est la question. Il y a des biens qui sont directement visés, donc il y a peut-être potentiellement des arbitrages qui vont être faits par les sociétés pour réutiliser l'argent qui est issu de ces ventes sur d'autres types d'actifs. Je prends un exemple, les métaux précieux sont visés par la taxe et rentrent dans le champ d'application. Par contre, l'or papier, lui, n'est pas visé. Est-ce qu'il n'y aurait pas des arbitrages de détention d'actifs détenus comme ça pour les réallouer sur finalement le même actif, mais détenu de manière un peu différente? Voilà, c'est toutes ces stratégies de contournement du dispositif anti-abus qui sont en train d'être réfléchies par les conseils, qui sont très alertes sur le sujet, évidemment.
Sachant que ce n'est pas nouveau, hein. Typiquement, les yachts, il n'y en a quasiment plus immatriculés en France. Donc, c'est-à-dire qu'avant ce texte, il y avait déjà des exercices de contournement, en quelque sorte.
Tout à fait. Et puis, le principe, c'est de se dire que le yacht qui est détenu par une holding patrimoniale, ce qui est exclusivement dédié aux dirigeants, sans qu'il soit mis dans une activité considérée comme étant professionnelle, c'est assez rare, hein, finalement. D'où la diminution, de l'assiette taxable et cette fameuse trajectoire hauteur de 200 millions d'euros visée par le gouvernement.
Et ça sera bien sûr à suivre l'année prochaine lors des premières déclarations et des premières remontées de terrain. Merci beaucoup Alexandre Boutin de nous avoir accompagnés pour faire un focus donc sur cette taxe sur les holdings patrimoniales. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la financière de Lorient et directeur de l'ingénierie patrimoniale.